Bonjour Chloé.
Bonjour, je suis avec vous là?
Ouais.
Vous m'entendez?
Ouais.
Ok, donc bonjour tout le monde. Je m'en souviens pas vraiment de ce qui s'est passé, donc je me suis dit,
Je vais... On va essayer de mettre... Donc c'est ça le dispositif expérimental, Chloé, c'est qu'on essaye de mettre un micro à côté de mon ordinateur. Voilà, redis-nous bonjour. Oh là, on n'est pas assez expérimenté pour une sortie son comme ça. Alors, Chloé Chevalier, c'est une auteure qui a de la chance, puisque c'est la deuxième fois qu'elle fait la rentrée de la fantaisie. Donc elle connaît un petit peu le principe avec un cycle aux éditions des Moutons électriques. Et donc le récit du demi-loup. Et l'année dernière, le premier tome, c'était Viridienne. Et le deuxième, c'est donc Les Terres de l'Est. Hein. Est-ce que peut-être, Chloé, tu peux nous refaire un petit point sur ton univers, nous le présenter, s'il te plaît?
Refaire le point sur l'univers que vous
Oui,
présentez.
pour nous en donner les grandes lignes.
Oui, je l'entends assez mal. Je vais représenter l'univers pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça se passe dans. Oui.
Oui, c'est bon, on t'entend, t'inquiète pas.
D'accord, ok. Il y a quelqu'un qui s'est penché sur les grands frais qui m'a appelé. Je vais essayer de ne pas trop spoiler pour ceux qui n'ont peut-être pas lu du tout le tome 1. Mais donc, c'est un univers de médiéval fantasy qui reprend pas mal de codes du genre, qui pourra peut-être faire penser, je ne sais pas, un homme avec les siennes d'assassin royal. Voilà, à ceci près qu'on n'a pas de magie du tout, pas de créature, pas de pouvoir, rien du tout. Et que ça va être plus centré sur les relations entre les gens et comment les relations, on va dire, à échelle intime, peuvent avoir des répercussions à sur une échelle politique, géopolitique, beaucoup plus ample et potentiellement dramatique dès que ces gens en question sont des princes, des princesses et leurs suivants. Il y a des caractéristiques, des coutumes principales du royaume, c'est-à-dire que chaque membre de la famille royale se voit attribuer à une licence suivante, qui est une personne du même sexe, née un jour après, qui va l'accompagner toute sa vie en paiera comme un double, une pièce de rechange, mais aussi un modérateur, un ami aussi. Voilà. Donc, on suit ses suivants, on suit deux princesses, on suit aussi le prince. C'est un récit assez choral. Il y a cinq personnages principaux, six personnages principaux. Et voilà, et le royaume est érogé par une épidémie qu'on découvre dans le tome 1 et donc sur laquelle on apprendra plus dans le tome 2. Et aussi dans le tome 2, on voyage pas mal puisque on va s'en rendre compte petit à petit que le demi-loup, c'est pas si grand que ça comparé à tout ce qu'il y a, à tout ce qu'il y a autour.
Ouais, le royaume du demi-loup, il y avait vraiment quasiment deux royaumes en un, de manière très éloignée, au bord de la guerre civile.
C'est ça, c'est-à-dire il y a déjà alors, le royaume a subi une scission, on va dire, au début du tome 1, la mort du roi de la génération d'avant, il partage ça, il donne une moitié à chacun de ses fils, mais sans vraiment statuer sur est-ce que c'est deux royaumes distincts, est-ce que c'est deux régions, est-ce qu'il y en a une qui est inféodée à l'autre, ou est-ce que les deux sont vraiment indépendantes. Il n'y a pas une zone de flou, donc tant que tout se passe bien, quand c'est la paix, il n'y a pas de problème, on s'en fout. Et quand les choses commencent à se gâter, d'un seul coup, c'est un des pays, parce qu'il était deux sous-domaines de leur royaume, deviennent deux royaumes différents, mais qui sont quand même les mêmes, parce que c'est la même culture. Et voilà, la guerre civile se rapproche de plus en plus, au fur et à mesure que ça se tend entre les deux pôles du royaume, Viridienne, qui est d'ailleurs le titre du premier tome, et les Éprenas, qui est l'autre domaine royal, dont on entend beaucoup plus parler dans le tome 2.
Ce qui était intéressant dans le premier tome, cette espèce de gémelléité de faux jumeaux, pourquoi tu as créé ce personnage si proche pour avoir un contrepoint, pour parler peut-être d'une classe sociale différente? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Ouais, des suivants. les suivants.
Bah, en fait, j'avais envie d'écrire un récit choral en train de dépeindre le groupe de jeunes filles, mais j'avais envie de les mettre toutes sur le même rang, genre toutes des princesses ou toutes des membres de la famille royale. Et j'avais pas non plus envie d'une simple relation hiérarchique avec certaines qui ont le pouvoir, qui sont des princesses, et d'autres qui n'ont pas du tout, parce que ça serait, je sais pas, mettons, des femmes de chambre, des cuillères, ou que sais-je. Et du coup, est venue cette idée, une espèce de truc intermédiaire, quelqu'un qui serait issu du peuple, mais placé à un rang équivalent à la noblesse, parce qu'elles sont potentiellement dans la ligne de succession. C'est-à-dire, si la princesse meurt au temps d'un rang, ben, c'est la suivante qui hérite. Mais c'est la même chose, c'est du carré. Et du coup, là, c'est créé en fait une nouvelle classe sociale, c'est une espèce de maillon un peu sacré entre le peuple et le pouvoir royal, qui du coup a beaucoup d'importance pour le peuple, parce que n'importe qui peut mettre à jour un enfant qui sera tiré au hasard pour être issu, pour être tiré vers la royauté. Donc voilà, et en fait, au fond, quand je commençais l'écriture, je ne me rendais pas compte, mais c'est presque un des sujets, enfin, c'est un des sujets centraux du bouquin, c'est la définition de cette relation très particulière, de ce que c'est qu'être un troubadour.
D'accord, pour la monarchie et le peuple. Dans le deuxième tome, tu l'as dit, on prend le large.
Oui.
Donc, dans le premier, on était vraiment sur le royaume du demi-dieu, puis d'un seul coup, on découvre un monde beaucoup plus vaste. Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Tu avais envie de prendre du recul par rapport à ton intrigue initiale?
Voilà, c'est ça. En fait, l'intrigue initiale, c'est quasiment un huis clos. Un huis clos à quelques flashbacks près d'un autre personnage qui se voyait d'ailleurs, le prophète des morts. Mais c'est vraiment un huis clos. C'est les cinq adolescentes qui sont dans leur château et qui connaissent rien d'autre du monde que leurs petits problèmes de cœur et leur petit jalousie, etc. Et bon, vision du monde serré comme ça. Et parce que elles sont jamais sorties de chez elles. À la fin du tome 1, donc ça commence à s'éparpiller un peu géographiquement, et je voulais qu'en tant que lecteur et que effectivement qu'on prenne du recul, mais vraiment, et qu'on se rende compte en fait que le milieu c'est un petit machin minuscule entre deux blocs énormes. Je sais pas, en termes d'échelle, ça serait pas comme le Liban, on parlait à l'URSS à côté, quoi, en termes d'échelle. Sauf que tant qu'elles ne sont pas quittées dans le château, elles ne peuvent pas se rendre compte entre cette différence-là. Ni le lecteur, d'ailleurs, tant qu'il voit que les intrigues et les chefs du château. Donc, ce coup, on élargit, on voit que c'est énorme d'un côté, que c'est énorme de l'autre, et que peut-être les petits problèmes du demi-goût, bon, c'est à relativiser un petit peu.
Est-ce que dans le premier tome, il y avait une partie un peu roman d'apprentissage avec ces adolescents qui découvraient au gré des événements un petit peu la vie? Est-ce qu'on peut dire qu'en en élargissant un petit peu la focale comme ça, on est dans la continuité de cet apprentissage pour tes héros?
Mais totalement, parce que dans le tome 1, c'est grosso modo, leur adolescence, on les prend à 11 ans jusqu'à 20 ans, et dans le tome 2, on les suit de 20 ans à 25 ans à peu près. Donc, à la fin du tome, elles ont appris plein de trucs, elles commencent à être adultes, et on les voit continuer leur apprentissage. Sauf que c'est un grand sujet là, elles se sont, au début du tome 2, elles se sont rendues compte que, ouais, il faut qu'on se bouge un petit peu, qu'on apprenne des choses, qu'on apprenne à gouverner, qu'on apprenne à penser. Et on les suit dans cet apprentissage-là, mais qui n'est pas tout à fait fini à la fin du tome 2, mais qui va être à l'échelle de tout le tome, puisqu'on va continuer de les voir venir pas mal. Enfin, on va tomber à l'échelle du cycle, je veux dire. Donc, oui, c'est la suite de leur apprentissage. Les choses deviennent plus sérieuses, mais.
L'année dernière, tu nous avais dit que en fait, tu avais commencé il y a longtemps ce récit-là. Est-ce que les Terres de l'Est, cet élargissement était déjà au départ, ou est-ce que c'est toi là qui, par rapport à ta vie de jeune adulte, quand tu as commencé à écrire, a changé aussi un petit peu de point d'intérêt ou de focal?
Oui, il y a les deux. C'est-à-dire que quand j'ai écrit les Terres de l'Est, les premières versions, j'avais quel âge? On a dit, j'avais 20 ans, 21 ans au maximum. Donc, on va dire que j'ai élargi avant tout pour le plaisir de moi me promener dans l'univers, d'écrire des pays, d'écrire des coutumes et tout ça. Et c'est là, avec un petit peu plus, qui peut avoir ce discours un peu plus construit sur l'importance de cette recul. C'était pas totalement conscient au moment où j'ai commencé à écrire.
Tu as plusieurs personnages, plusieurs voix. En plus, tu changes pas mal en termes de narration, il y a toujours des lettres, etc. Comment est-ce que tu travailles les différentes voix de tes personnages? T'as un plan, t'as des fiches caractères, ils suivent leur ligne propre?
Oui, j'ai un plan assez précis, mais je ne fais pas un plan par personnage, j'ai un plan global et je sais d'emblée quel passage va être raconté par qui en fait. Je ne fais pas genre prends Catel et vu que je développe toute la ligne de Catel point par point, je m'offre aussi quelques lacunes que je ne cherche pas à remplir en même temps. Et je ne fais peut-être pas spécialement de fiches, genre, j'en ai fait un petit peu, mais c'est plus des trucs, genre des descriptions physiques, tout ça. Les psychologies des personnages, je les ai en tête très bien, donc je n'ai pas besoin de faire de fiches pour ça. Et le plan du livre se fait tomber de façon découpée. Après, ça m'arrive rétrospectivement de dire, je n'ai pas abordé ce point-là, il manque quelques infos, et là, par exemple, je rajoute une lettre ou un document autre. Peut-être en introduisant une nouvelle voix qui ne va pas apparaître beaucoup, mais juste dans une lettre ou deux, ou un problème. Ou je varie les sources, parce que c'est très chouette en fait de dire tiens, si là c'était un extrait des essais politiques de l'Allemagne, ou une chanson, ou puis il y a d'autres trucs, je suis dans le top 3, que je suis en train de filmer là.
Tous ces extraits, toutes ces lettres, ça sert à ça, à élargir l'univers, ou à creuser un peu plus, ou à faire du lien?
Bah, pas tant à élargir l'univers qu'à montrer différentes. De montrer les différences sous un autre point de vue à chaque fois en fait. Parce que c'est à ça que j'essaie de faire. C'est. Dans tome 1, forcément, c'est pas très palpable puisque tous les personnages sont ensemble, sont globalement alliés, ou quand il y a un événement, ils le vivent tous plus ou moins de la même façon, ils sont d'accord. Plus les personnages divergent et moins ils sont potes, plus ils ont une vision très différente de ce qui se passe. Du coup, plus on rajoute de sources, plus ça rajoute de facettes différentes. Et j'essaie de créer le moins d'objectivité possible sur ce qui se passe. Donc, rajouter une lettre avec quelqu'un qui va raconter les choses de façon très différente, c'est intéressant. Encore une fois, c'est une question de. Ça varie les points de vue, en fait, que ce soit géographiquement ou dans comment les gens pensent que l'événement, comment un tel se justifie et quand ça va être une telle qui va raconter, la justification du premier va pas du tout trop valable. Voilà, tout est une question de point de vue en fait, et tout le monde a sa justification pour faire des choses, même les pires trucs que commettent les personnages sont toujours une bonne explication pour le moment.
Nous on entend pas les personnages, je ne vois pas. Dans le tome 2, ce qui est chouette aussi, c'est la rencontre avec d'autres potes pour une partie de tes personnages.
Oui.
Comment est-ce que. J'imagine que cette rencontre, elle n'est pas au hasard pour toi. Comment tu as imaginé les gens qu'ils allaient rencontrer et dans quel dessin?
Alors, comment je l'ai imaginé? Quelles sont mes références, tu veux dire?
Oui, comment.
Du côté des plaines jaunes, pour moi, c'était un peu les indiens des grandes plaines. Ma source d'inspiration, c'est des nomades qui se déplacent à cheval, même en termes de pays qui chassent des bisons, en termes de. Dans mon imaginaire, c'était un peu ça. C'était un peu les intents avec lesquels doivent avoir les intents du genre humain. Et encore une fois, c'est pareil, c'est histoire de. C'est pour ce qui est de l'intérêt narratif, on va dire, c'est montrer des peuples qui ont une culture et un mode de vie très différent de tout ce qu'ils ont connu jusque-là. Et qui vont les pousser à apprendre quelque chose de nouveau, à envisager les choses différemment, à s'ouvrir un peu l'esprit, quoi. Et même chose pour les terres de l'Est. Après, c'est différent parce que Aldemar, il a été plongé dans l'Empire très très jeune, de toute façon non désirée, et il est presque devenu. J'en dis peut-être trop, mais il a vraiment appris à connaître l'Empire de l'intérieur. Ce qui n'est pas la même chose que quand Catel voyage et qu'elle découvre vraiment plus adulte et que ça l'a fait évoluer. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
Oui. Il y a un an, tu étais avec nous, tu étais ici pour la sortie du top 1. Entre-temps, il y a eu plein de bonnes chroniques, il y a eu des salons. Comment tu as vécu un petit peu cette première année d'auteur avec le récit du Doumilou? C'est quoi ton regard là-dessus?
J'ai été très surprise et positivement par le nombre chronique positive, vraiment très positive, qu'il y a eu sur le tome 1. Et comme ça a déjà commencé sur le tome 2, je trouve ça vraiment chouette. Après, je l'ai vécu très bien, ça va, merci. Non, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à parler de son travail, en fait, parce que au fond, l'écriture, c'est quand même quelque chose d'assez solitaire, et qui, pour ma part, je travaille assez intuitivement, je ne me pose pas pour écrire dans mes intentions d'abord, et me dire, j'écris ça comme ci, comme ça, parce que ça va avoir un tel effet. Et à partir du moment où le livre est publié, et ben, forcément, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est apprendre à expliquer un peu comment on fait les choses, quoi, et pour le communiquer au lecteur qui s'intéresse. Donc là, c'est tout ce que j'ai commencé à apprendre au cours de l'année dernière. Et je pense que c'est les gens qui m'ont vu parler il y a un an, ils devaient me trouver beaucoup moins à l'aise que qui est maintenant. Il y a plus peu d'idées, alors déjà, mais depuis un moment. Donc ça, c'est le même. Ah, je vais faire mes lecteurs, donc c'est tout dans mes oreilles. Oui. C'est ça, apprendre à parler de son travail et puis rencontrer les gens qui l'ont vu. Voilà, ça arrive à ça. Ça, c'est très chouette. Et j'ai hâte finalement encore plus maintenant que c'est déjà le tome 2, c'est-à-dire que je pense que je vais rencontrer plus de lecteurs qui ont lu de tomes et pas des gens qui sont juste en train de découvrir. Voilà.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le tome 3 ?
Sur le tome 3, je l'ai presque fini déjà. Et je compte bien profiter de mes 2 mois à Nouméa quand j'ai du temps du coup pour le finir, mais il me reste 4 chapitres où je suis vraiment pas loin du but. Et ce que je peux dire sur le tome 3, c'est que. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Parce que la plupart des gens là présents n'ont peut-être même pas lu le 2. Il va y avoir des morts. Voilà, des morts importantes. Je sais pas qui. Plusieurs. Quoi d'autre? On va retourner dans le livre, essentiellement. Je ne crois pas que. Bon, on va voyager un peu, mais on va moins voyager que dans le tome 2 où on part très très loin. Dans le tome 3, on commence à reconverger. Voilà, je n'en sais plus.
Ok, c'est bien. Avec la lumière, t'as un petit air un peu satanique comme ça quand tu dis qu'il y a des morts.
D'accord. Toi, tu es une grosse tache floue.
Oui, moi, je suis une tache floue. Je sais, ils sont là. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Chloé? Vous pouvez poser une question à l'auteur de l'heure. Alors, faut venir.
Vous soyez.
Non, vous êtes mes devant, viens te voir.
Ouais,
parce qu'en fait, je vais être une tache floue aussi. Bonjour. Ma question, c'est que je veux bien le voir en arrivant ici, qu'il allait y avoir un recueil de nouvelles sur l'univers du demi-bout. Donc, vous voulez savoir si vous pouviez nous en parler un peu.
Oui, donc ça s'appelle. Et je perds encore mes lectures, vous allez tenir. Ça s'appelle le rat Fleur entre des ruines, ça va sortir en poche chez Elios en novembre. Et en fait, c'est un recueil de 4 nouvelles qui se passent toutes dans, on va dire, sur le même territoire, sur la même zone géographique que le demi-loup, mais très très longtemps avant, avant même que ça s'appelle le royaume du loup et qui montre un peu les différentes. Civilisations, cultures qui se sont succédées sur le même territoire et comment chacune a laissé des traces sur lesquelles la suivante s'est bâtie. Voilà, donc elles se succèdent chronologiquement, il y a parfois plusieurs siècles, voire presque des millénaires qui séparent chacune des nouvelles. Et la dernière d'entre elles se passe longtemps avant le tome 1. Mais il y a toujours des petites traces que les lecteurs, je pense, attentifs pourront retrouver. Entre les nouvelles cycles et du nouvel album aussi. Donc c'est un préquel, mais un préquel est donné longtemps.
Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour passer devant la caméra? Bon, on va te remercier. Petite question, il y a quelle heure à Nouméa?
À Nouméa, il est minuit pile. Mais sachant que le rythme calédonien est décalé, c'est-à-dire que les gens se lèvent vers 5-6 heures du matin et la vie commence très très tôt. Et du coup, à 9 heures, tout le monde dort et les couples les adultes. Donc là, c'est à peu près comme si c'était 3 heures du matin pour moi en termes de sensation physique.
Merci.
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 On espère qu'on n'a pas fait trop de bruit pour ceux qui savent
quoi. C'est pour ça qu'il parle doucement, pas revenir toute l'année.
Eh bien, super. Merci beaucoup, Chloé, en tout cas.
Merci. Hein,
et puis, dans deux mois, tu es avec nous en France, c'est ça?
Pardon?
Dans deux mois, tu es de retour en France.
Oui, je rentre au début de mois.
D'accord. Merci, Chloé.
Merci.